mettez 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1, hyper simple. 11h30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Bariotte.
On y va, table numéro 1.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver comme tous les samedis sur Europe 1. Nous sommes au studio Coluche jusqu'à midi et demi. Écoutez ces jolis noms de la cuisine française. Crêpes Suzette, beurre blanc, pommes soufflées. Ces grands classiques seraient nés par accident, comme la tarte tatin d'ailleurs. Mais nous avons mené l'enquête et nous avons des révélations pour vous. Attention aux fausses légendes, vous saurez tout dans un instant. On le constate aussi tous les jours dans nos paniers, les prix flambent. La grande distribution réagit, ça on est au courant, mais les petits commerçants et les artisans aussi, figurez-vous. Et on va parler des belles initiatives de nos amis commerçants. Et puis le chef Mohamed Cheikh sera des nôtres, avec un beau carpaccio de poisson abordable à refaire ce week-end. En attendant, voici mes bons vivants du jour. Vive, pétillante, brute et nature comme un bon champagne non dosé. Vous la lisez dans Le Monde, c'est Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
Sa plume ne tremble pas, son amour de la langue se joint à celui de la table. Critique gastronomique émérite au Figaro, c'est Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Le fameux bonjour, bonjour.
Il faut le faire trois fois.
Ah, mais on aime beaucoup. Allez, bah c'est parti les amis, en route. Et on ne change pas nos bonnes habitudes, vous les connaissez, votre fameux goût de la semaine. Oh, je vous sens en verve, Ophélie Neyman, avec l'œil qui frise. Eh bien, allez-y, tiens, votre goût de la semaine.
Eh bien, moi, pour ce goût de la semaine, j'ai envie de rendre hommage à un cliché français que j'aime tellement. C'est cet art de pouvoir parler pendant des heures de cuisine alors qu'on est à table. Et je pense spécialement à ma maman, qu'on appelle Mounette. Je voudrais lui rendre hommage parce que je suis partie au ski avec elle dans les Vosges la semaine dernière. Et elle est capable, sur un espèce de self, vous savez, de station de ski, où on est quand même sur une ambiance de knack frites.
Oui.
Elle est capable de vous faire une demi-heure sur la knack, sur l'espèce de poisson pané qui était pas bon, mais aussi sur la cuisse de lapin qui était meilleure. Et parce que vous comprenez, c'était une cuisse de lapin, c'était pas durable, c'était la pâte arrière, c'était pas la
elle
pâte avant.
Raison.
Et voilà. Et en fait, c'était trop. C'était un peu excessif, Mounette. Je lui dis, là, je lui passe le message.
Elle se prenait pour Emmanuel Rubin chez Guy Savoy.
Mais en même temps, c'est tellement charmant.
Mais là, faudrait faire un journal avec elle.
C'est tellement adorable, cette façon française qu'on a de toujours disséquer ce qu'on a dans nos assiettes. Et il faut jamais oublier ça. Quand on mange, il faut réfléchir à ce qu'on mange et se poser deux, trois questions et en parler.
Qu'est-ce qu'un Français fait à table? Eh bien, il parle de nourriture, il parle de la table. Eh bien, on embrasse votre maman, Ophélie. Votre goût de la semaine, cher Emmanuel.
Ah, moi, j'ose plus du tout parler. On va encore dire que j'y certes. Nouveau bistrot parisien, rue des Dames, c'est le 17e arrondissement, le 17e du gourmand, vous savez, tout près de la rue de Lévis.
Oui.
Une des rues les plus gourmandes de Paris, ça s'appelle Chez Janine, sauf qu'il n'y a aucune Janine dans le restaurant, mais deux jeunes, un en salle, une jeune chef en cuisine, et alors, boudin, moule, avec une sauce en esprit de matelote. On est vraiment dans ce qu'on appelle la bistronomie, ces petits plats qui peuvent devenir grands.
Boudin, moule dans la même assiette.
Ouais, c'est un terre-mer, avec deux plats. De produits ordinaires, de produits de peu, le boudin, les moules, c'est des produits presque canailles et voyous. Et puis soudain, par le génie un peu sorcier de cette sauce matelote, eh bien on a un grand plat. Tout ça pour un menu déjeuner avec un plat à suivre et un dessert à 28 euros.
Ah oui.
Faut pas trop se teindre.
Non, ça c'est vrai. Voilà, beau rapport qualité-prix pour la capitale.
Janine 17e.
Effectivement. Eh bien merci Emmanuel Rubin. Bah écoutez, mon goût de la semaine, il rejoint presque le vôtre. J'étais avec ma maman cette semaine et je lui ai fait un plat que j'ai fait à la télévision il y a peu de temps, figurez-vous. Des ravioles du Dauphiné, les ravioles de Royan, que je mets dans une fondue de poireaux avec de la crème. Je mets tout ça au four avec du bleu. Ça prend 15 minutes de cuisson un petit peu près au niveau de la fondue de poireaux et ensuite aller 10 minutes sous le grill du four. Et c'est de la comfort food, comme on dit. Il y a ce côté réconfortant avec la bonne raviole du Dauphiné qu'on aime bien avec cette petite farce de fromage frais et de persil. Et puis le bleu qui emballe tout ça, voilà.
Et votre maman qui a dit c'est bon.
Exactement. Elle a dit c'est très très bon et elle y est retournée, comme on dit. Allez, c'est l'heure d'aller au marché, les amis. Direction Souffelmeyersheim dans le Bas-Rhin. Mélina Fachin, vous savez, c'est la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Eh bien, elle vous a demandé, à vous, pourquoi vous préfériez les petits marchés au grand marché.
On en profite parce que c'est un marché de proximité. On trouve ce qu'il nous faut, l'essentiel.
Alors, là-bas, vous trouvez.
Des pissenlits, des carottes, des pois, ah, et des endives.
On essaie d'acheter les légumes de saison.
Il y a la mâche, les premiers choux-fleurs, les premiers radis, les navets blancs nouveaux et les choux de Bruxelles.
Bah, c'est-à-dire les grands marchés, comme quand vous avez fait 300 ou 400, vous ne vous rappelez plus des prix qu'il y avait déjà au truc d'avant.
Et puis, on perd pas de temps.
Moi, je viens chercher de la viande pour un bake-off. Il y a du porc, de l'agneau, du jarret, des pieds de porc. Ça se fait dans une grosse terrine. On fait ça samedi. On a des amis parisiens qui viennent justement, et puis on va leur faire découvrir le bake-off. Moi, j'adore les petits marchés près des gens. Les gens se connaissent justement. On discute quand on fait la queue. Je trouve ça hyper sympa et très bon en plus.
Eh ben voilà, les deux réunis. J'ai dit Souffelweyersheim. Non, c'est Souffelweyersheim, comme on dit en Alsace. Attention, hein, excusez-nous, on nous écoute beaucoup dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. C'est sympa vraiment cette habitude du marché. Je rappelle qu'on compte 10 000 marchés alimentaires hebdomadaires, pas encore dans tous les petits villages, et ils sont indispensables. Donc c'est vrai qu'on a envie que ça fleurisse encore. Hein.
Bah oui, c'est quand même une part d'humanité hein, qu'on apporte dans ces petites communes-là. Et puis ça permet de dynamiser les villages. Hein. Avant, on comptait une centaine de nouveaux marchés avant le confinement. Hein. C'était vraiment les communes qui avaient amené cette volonté-là. Ça s'est un petit peu arrêté et puis les études montrent plutôt qu'on privilégie les hypermarchés.
Et ça permet de dynamiser le village, oui.
Oui, et on s'aperçoit tout de même, et ça c'est plutôt un bon signe, même si c'est plus tout à fait le marché, que toutes ces anciennes halles, vous savez, ces marchés couverts, souvent avec des structures Eiffel, eh bien sont en train de se redynamiser et devenir de ce qu'on appelle des halles à manger, des food courtes, et qui a beaucoup un peu à l'espagnol, entre deux étals, des petits comptoirs où on peut grignoter. À Paris, ça a permis de sauver la peau de quelques marchés couverts, mais on le
notamment
voit
notamment celui des Enfants Rouges.
Exactement,
oui.
Mais on le voit aussi maintenant à Nantes, on le voit du côté de Angoulême. Toutes ces halles sont en train de devenir un peu des bistrots marchés. On aime bien quand c'est d'abord et surtout du commerce de bouche, mais c'est pas mal.
Les bons vivants se mettent à table sur Europe 1 avec Laurent Mariotte.
Une étourderie ou une maladresse, même en suivant une recette, c'est vrai que ça nous arrive à tous et ça peut parfois être le point de départ de grands plats. Eh bien, en fouillant dans les grimoires de la cuisine française, on voit que de nombreuses recettes seraient nées par erreur. On a mené l'enquête et on peut vous dire avec la bande, attention aux fausses légendes, hein, Emmanuel Rubin.
Tiens, j'attaque avec le beurre blanc.
Oui.
Pour commencer donc.
La sauce au beurre blanc.
Alors, sauce au beurre blanc. C'est une sauce à base de réduction de vinaigre, de vin, d'échalotes, dans laquelle on va introduire petit à petit des morceaux de beurre.
Frais.
Ouais. Et tout cela va accompagner généralement les poissons et les poissons à chair blanche. On dit qu'une cuisinière nantaise, à la fin du 19e siècle, aurait oublié d'ajouter les œufs dans ce qui devait être une sauce hollandaise. À la place, elle aurait incorporé du beurre après avoir fait réduire ses échalotes. C'est donc une formidable bourde, mais qui va donner lieu à une mythologie saucière française. On l'appelle d'ailleurs du côté de Nantes le beurre raté. On l'appelle aussi le beurre nantais et donc le beurre blanc.
Eh ben, on aura un historien avec nous qui est Patrick Rambourg dans un instant. Il va nous dire si c'est vrai cette histoire. Ophélie Neyman, une autre recette née par erreur ou par accident selon la légende.
Il paraît, l'épée de nonne. L'épée de nonne,
oui,
Laurent.
Vous qui avez failli rentrer dans les ordres.
Absolument. Et on m'a justement viré pour ça. Donc, des beignets roulés dans du sucre et parfois dans des épices. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une jeune cuisinière de l'abbaye de Marmoutier à Tours qui aurait créé ce beignet soufflé parce qu'elle avait fait, elle avait laissé échapper un vent. Alors, elle était surprise et honteuse. Et pour camoufler un petit peu le bruit du vent, elle a fait tomber une cuillerée de pâte à choux dans la friture. Donc, si ça vous arrive et que vous êtes en public, vite, un peu de friture,
ben voilà.
Un peu de pâte à choux et paf, un peu de nonne.
Et c'est carnaval.
Ouais, mais celle-là, je pense que vraiment, c'est du pipeau.
Oui,
ça
peut se défendre, je suis d'accord. Sans oublier la crêpe Suzette, les pommes soufflées, la ganache. Là aussi, c'est vrai qu'on parle d'un rattrapage, un extrémis d'une recette qui partait en fiasco. Alors, est-ce trop beau pour être vrai tout ça? Eh ben, on pose la question, je vous le disais, à Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires et alimentaires. Il est l'auteur de La cuisine et gastronomie française chez Perrin. Il est chroniqueur chez Historia. Il est avec nous en ligne. Bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour Laurent.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Alors, la sauce au beurre blanc dont on vient de parler est un souvenir d'enfance pour vous, en plus, hein, il me semble.
Oui, oui, tout à fait, oui. Avant de devenir historien, donc dans ma famille, il y avait deux recettes qui circulaient, en fait. Une recette de ma grand-mère paternelle, et une recette de ma mère. Et en fait, une des recettes, il y avait une réduction d'échalotes, du vinaigre, de vin blanc avec de la crème. Et l'autre recette, c'était seulement une réduction d'échalotes et du vinaigre. Bien sûr, après, les deux recettes sont montées au beurre. Et la différence de goût est très claire, puisqu'il y a un beurre blanc qui était un peu plus fort que l'autre beurre blanc. Et bien sûr, ces sauces nappaient le brochet ou le cendre que pêchait mon grand-père en bourg. Donc, ça me rappelle des souvenirs. Mais il y avait aussi une autre différence. C'est-à-dire, il y avait un autre débat dans la famille. C'est-à-dire, est-ce qu'on laissait les échalotes dans la sauce? C'est-à-dire qu'en principe, on passe un beurre blanc au chinois pour enlever les échalotes.
Ou
mais
Italie,
il y a une autre école. Voilà, il y a une autre école qui dit qu'on laisse les échalotes. Et là aussi, ça fait une texture bien différente, puisque vous mâchez un peu les échalotes quand vous les avez sur le poisson. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, en fait, que ce débat, d'une certaine façon, existait donc entre deux régions très proches, hein, la région de Nantes et la région d'Anjou. Moi, je suis de l'ouest de la France, je suis de la région du Mans, donc en gros, entre les deux, en fait, on peut dire ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une revendication comme ça, notamment de la région nantaise, quant à l'origine du beurre blanc. Mais en approfondissant la recherche, je me suis rendu compte que, tout compte fait, le beurre blanc existait déjà au XVIIe siècle. Alors, ça ne veut pas dire que la sauce était tout à fait la même, puisque les recettes, elles évoluent dans le cours de l'histoire. Mais l'idée même du beurre blanc était déjà là, notamment avec cette petite pointe d'acidité avec le vinaigre, les échalotes qui étaient déjà là.
Eh oui, l'essentiel était là.
Et une sauce au beurre. L'essentiel était là. Et c'est surtout entre les deux guerres mondiales qu'il va y avoir une véritable mode ou un véritable phénomène de autour de la cuisine régionale.
Eh oui, ça permet d'affirmer en fait l'identité d'une cuisine régionale aussi, hein, ces sauces qui sont des marqueurs de la tradition. Et ça participe, comme le disait Emmanuel Rubin, à une mythologie saucière en fait, quelque part.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment l'affirmation des cuisines régionales. On veut montrer en fait que la cuisine française est diverse et variée et qu'elle est constituée d'une diversité de cuisines dites régionales. Mais on en vient à créer en fait des recettes, voire à créer des légendes. À la rigueur qu'on puisse dire qu'une telle cuisinière aurait pu inventer tel ou tel plat, pourquoi pas, mais aller jusqu'à dire que c'est parce qu'elle a raté une béarnaise qu'elle aurait oublié en fait de l'estragon, oui j'ai oublié de dire l'estragon de la béarnaise et les jaunes d'œufs, c'est un peu tiré par les cheveux. Quelqu'un qui sait cuisiner et qui sait faire la cuisine comprend très bien que ce n'est pas dû à une erreur, c'est autre chose.
Alors avant de jouer avec notre bruit de cuisine, Patrick Rambourg, j'aimerais avoir votre avis. Effectivement, on raconte que de nombreuses recettes de notre patrimoine culinaire sont nés par erreur. Votre avis, vous, l'historien qui aimait sourcer les choses, comme on dit.
Mon avis est très clair. Hein. Moi, je ne crois pas du tout aux légendes. Je ne crois pas aux recettes issues d'erreurs, ou du moins d'erreurs flagrantes ou si grosses comme on nous les présente en fait sur Internet. Qu'il y ait du tâtonnement en fait,
oui, c'est
qu'il
ça.
Y ait des essais. Oui, ça fait partie du travail du cuisinier et de la cuisinière. On essaie, on teste, mais aller chercher cette idée que voilà, un apprenti aurait fait tomber quelque chose et ça devient une recette, ou une cuisinière aurait oublié quelque chose et ça devient une nouvelle recette, ça, historiquement, ça ne fonctionne
trop
pas.
Trop beau pour être vrai, selon vous, mais j'ai ici, au sud de Coluche, Monsieur Rubin, Emmanuel Rubin, qui est d'Odeline.
Oui, non, mais je comprends, l'histoire, c'est d'y croire ou pas, en fait. Vous êtes historien, vous n'y croyez pas. Effectivement, t'as plutôt envie de dire, et moi, j'y crois, simplement parce que ça rend la cuisine plus belle, ça l'amène du côté des mythologies, c'est une espèce d'ingrédients invisibles où tu te dis, peu importe que ce soit vrai ou pas, soudain, il y a une jolie histoire qui accompagne. C'est peut-être un roman régional comme un roman national, mais peu importe.
C'est votre côté romantique de la casserole, ça, Emmanuel Rubin.
Le problème de ces légendes, c'est qu'elles circulent un peu trop et que beaucoup trop de gens y croient, en fait.
Eh ben, je suis bien d'accord avec vous. Alors, c'est pour ça, restez avec nous à l'écoute, ouais. Patrick Rambourg, parce que on va revenir sur l'origine de la tarte tatin dans un instant et vous allez voir que, eh bien, il y en a des belles et des pas mûres, comme on dit, à découvrir autour de la tarte tatin. Vous êtes au courant, j'imagine. Et je rappelle votre ouvrage, hein, Patrick, l'histoire de la cuisine et gastronomie française chez Perrin. Merci d'avoir été avec nous, Patrick Rambourg. Et bon week-end sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Et à propos, on vous offre, ne l'oubliez pas, le Blender Power 5XL Connect de Magimix. Pour ça, il faut découvrir notre bruit de cuisine. On l'écoute, tiens. Ah, une action. Oh oui, une action qu'on peut pratiquer encore à cette heure-ci. Moi, j'ai pas aidé. Allez, 39,21, 50 centimes la minute, ou alors vous laissez vos coordonnées sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
On parle ce matin des recettes qui sont nées d'un oubli, d'une erreur ou d'une maladresse. Et on a gardé le meilleur pour la fin, c'est la tarte tatin. Mais juste avant, vous vouliez avoir un petit mot, Ophélie Lehmann. On parlait de la sauce au beurre blanc et des maladresses nées
en
cuisine.
Mais oui, regardez-les, toutes les légendes. C'est toujours une femme ou alors un apprenti qui s'est trompé. On sait jamais
c'est
un grand chef. Enfin, jamais. Ça tombe toujours sur les mêmes.
C'est le syndrome du tronc clair.
Alors attendez, moi déjà...
Clair du tronc de l'équipe, effectivement, mais qui réussit les quiches.
Je voudrais dire quelque chose sur la tarte tatin tout de suite, parce qu'il y a plein de légendes. Mais là, quand même, la légende la plus fameuse, c'est que c'est quand même, et je pense qu'elle est vraie, c'est que c'est le dessert préféré de Dark Vador.
Ah, c'est vrai.
Mais
ah
bon, oui, quand il rentre dans une boulangerie, il commande toujours 3 pains, une tarte tatin. pain, 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 tartatin,
tartatin. Ah là là, parce que moi j'allais penser à Renaud,
tartatin.
Non,
non, non, non, c'est le coup de
belle. Désolée.
Je vois que nous avons de belles références. Vous l'aimez comment, tiens, la tartatin, avec de la crème ou sans crème, Emmanuel Robin?
Sans crème,
sans
crème.
Dans le fruit. Et vous, Ophélie?
Pareil.
Ah, moi j'aime bien la belle.
Avec des gros morceaux.
La belle crème fraîche double de Normandie à côté.
Des quartiers de pommes qui soient complètement fondants à l'extérieur avec un peu de chair ferme à l'intérieur.
Eh bien, les amis, breaking news, à l'heure où je vous parle, nous sommes en mesure de vous dire que cette tarte n'a pas été complètement inventée par les sœurs Tatin. On va remettre les choses dans l'ordre avec la version officielle, la légende, avec vous, madame la procureure Ophélie Neyman.
Tout à fait.
Et je donnerai la parole à maître Rubin pour le réquisitoire. Mais en attendant, la version officielle de cette légende autour de la tarte Tatin, rappelez-la nous, Ophélie.
Voilà comment maître. On nous présente les faits. L'hôtel Tatin de la Motte Beuvron revendique la paternité de la recette grâce aux sœurs Tatin, qui auraient fait tomber par inadvertance leur tarte aux pommes et l'auraient recouverte de pâte pour éviter le désastre. Cela se serait passé à la fin du 19e siècle, mais il semblerait que la création de la tarte renversée soit plus ancienne et que les sœurs n'ont rien créé de nouveau.
Eh oui, on raconte qu'il y avait déjà des tartes renversées qui circulaient dans la région. Maître Rubin, il a mis sa belle écharpe à la barre pour le réquisitoire. Pas de bras d'honneur, s'il vous plaît.
Non, ne
Je sais que c'est
pas
à la mode, pas de bras d'honneur.
Non, pas de Moretti. Mais Dupont, en revanche, puisqu'il n'y a aucune trace écrite, effectivement, madame le procureur, pas de recette signée par mesdemoiselles ou mesdames Caroline et Stéphanie Tatin. Le grand Kurnonski, on en a parlé récemment, le prince des gastronomes, qui avait fait le tour de France des spécialités culinaires pour un ouvrage dans les années 20, n'a d'ailleurs trouvé aucune trace de cette tarte à l'hôtel Tatin lors de sa visite à la Motte Beuvron en 1922. Et il écrit d'ailleurs à l'époque, il y a une tradition dans la région de tarte avec de la pâte par-dessus, tarte aux pommes, mais c'est tout. Donc, il est fort probable que ce soit une recette de foyer, une recette domestique, mais effectivement, tout le monde la faisait chez eux, chez soi, mais pas les sœurs Tatin plus que les autres.
Usurpatrice.
Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, chers auditeurs d'Europe 1. On accueille un témoin maintenant à la barre, c'est l'historien Gérard Boutet, spécialiste de la Sologne. Il a été interviewé par Francis Gillery, le réalisateur du documentaire À la recherche du goût perdu, diffusé sur France 3. Écoutez bien, voilà ce qu'il dit à propos de cette légende.
Bernard Eden, qui est un historien de la Sologne et qui était très documenté, avait relevé qu'un boulanger à Romorantin, bien avant les sœurs Tatin, faisait ces sortes de tartes renversées, sauf que dans les aïeux des sœurs Tatin, il y a un boulanger, rue de la Varenne, à Romorantin. Est-ce que ce n'est pas le même personnage qui fait déjà la tarte qui va donner la renommée à ses petites filles ou à ses filles? Je ne sais plus si c'est père ou grand-père. Mais il y a peut-être le secret, un secret familial.
Ah, peut-être un secret familial, on se croirait.
J'avais pas toutes les pièces du dossier aussi.
Alors, verdict, les sœurs Tatin n'ont rien inventé, alors la parole au procureur Ophélie Neyman.
Non, je voudrais rajouter une autre preuve au dossier. Cette preuve, c'est Urbain Dubois, le cuisinier, qui propose dans son
Urbain
école...
Dubois.
Oui, ah, Urbain
c'est
Dubois.
Joli nom.
Dans son école des cuisinières, en 1871, il propose une tarte aux pommes, avec la pâte par-dessus, et non en dessous.
Ah,
et les sœurs avaient alors entre 20 et 25 ans. Étaient-elles en mesure de déjà renverser la tarte?
Oui, ou de copier cette tarte. Eh bien, rebondissement, les amis, avec la parole de Martial Caillé. Vous savez qui c'est? C'est le propriétaire aujourd'hui, le chef cuisinier de l'hôtel Tatin à la Motte Beuvron en Sologne. Et voilà ce qu'il dit pour remettre l'église au centre du village.
L'idée de génie des demoiselles Tatin, c'est de l'avoir fait caraméliser, retourner. Ça, c'est une idée de génie. C'est quelque chose qui a été relativement longuement pensé pour sortir un dessert comme celui-ci.
Ah, eh bien nous y voilà. Elles n'ont pas eu l'idée de la renverser, mais ils ont eu l'idée de la caraméliser, la pomme, avec ce mélange de beurre et de sucre au départ. Donc elles ont quand même contribué à quelque chose dans cette légende. Hein,
je,
ce
demande
petit côté caramélisé.
Je demande la
relax. Vous demandez la relax, procureur Neyman.
Oui, enfin, on rappelle leurs prénoms, Caroline et Stéphanie. Ça me rappelle une certaine... C'est un rocher.
Une principauté.
Une principauté.
Oui,
c'est toujours douteux, je me méfie.
Est-ce que les sœurs de Monac font de la tarte Tatin le week-end? Ça, on ne sait pas, effectivement.
En revanche, qu'on peut ajouter tout de même, c'est que la tarte Tatin, elle doit sa postérité dans le monde entier parce que Louis Vaudable, qui était le patron du Maxim's de Paris dans les années 60-70, est allé déjeuné à la mode Beuvron, il a découvert cette tarte, il l'a ramenée chez Maxim's et tout Paris a commencé à copier la tarte et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans la postérité. Donc c'est encore une fois les Parisiens, car ici c'est Paris, qui ont véritablement permis au terroir français et normand de s'exprimer. Ça va, ou Solognaux, que sais-je, peu importe.
Mais vous avez
donc
raison,
relaxé, classé.
Non mais vous avez absolument raison. Encore une fois, on se rend compte qu'il faut un écrin autour d'une recette, d'une légende pour la populariser, pour qu'elle ait une belle histoire. Et le restaurant Maxim's a mis à sa carte cette fameuse tarte. Et il y avait même une espèce d'espionnage industriel à l'époque, puisque le jardinier des sœurs Tatin connaissait des gens de chez Maxim's et le gars de chez Maxim's voulait à tout prix la recette des sœurs Tatin, vous voyez, qui était caramélisée à l'époque. On l'a bien compris, ben voilà.
Une fois de plus, Paris pille les pauvres gens. Paris pille la campagne.
C'est ça, ouais, on a qu'à écrire une série noire.
Exactement. Et si vous voulez voir, tiens, en replay sur France TV, eh bien, à la recherche du goût perdu spécial Centre-Val de Loire, vous en apprendrez de belles sur cette fameuse tarte tatin, entre autres. Eh bien, merci Maître Rubin, merci Maître Neyman. Ne bougez pas, on vient dans un instant avec quelqu'un qui est une légende, lui aussi à sa façon. C'est le chef Mohamed Cheikh, vainqueur de Top Chef, un chef voyageur comme on les aime. Il arrive dans un instant sur Europe 1. Mais juste avant, on a de belles initiatives anti-inflation pour vous, chers auditeurs d'Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ils ont remis leur robe au placard, hein, après avoir joué le procureur et l'avocat général. Nous sommes toujours sur Europe 1 avec mes bons vivants du jour. Ophélie Neyman du journal Le Monde, alias Miss Glouglou, hein, sur Instagram. Et puis Emmanuel Rubin, palais officiel du Figaro, s'il vous plaît.
Oui, aussi du tribunal d'instance. Et de la 17e chambre correctionnelle.
Après avoir remonté le temps, revenons à nos assiettes d'aujourd'hui. Hein, vous l'avez entendu cette semaine sur Europe 1, entre autres. De nouveaux paniers anti-inflation ont vu le jour avec des aliments essentiels au prix bloqué dans la grande distribution. Alors c'est vrai qu'on ne parle que d'eux dans les médias depuis une semaine, de ces grands distributeurs, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'Ophélie, c'est un beau coup de pub pour la grande distrib aussi, cette histoire.
Oui. Hein. Ça, les supermarchés, ils ont réussi à faire parler d'eux en misant sur la concurrence. Donc effectivement, ils ont refusé que le gouvernement leur impose des prix avec une idée de panier en disant « Mais non, mais nous, on a nos propres rayons, on a nos propres produits, on peut garantir un prix au plus bas, mais il faut nous laisser libre de choisir, de proposer 5, 50, 100, 5000 références. Et une fois de plus, la grande distribution a gardé sa liberté.
Alors justement, pour contrer tout ça, figurez-vous que les petits commerçants, et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, vous, artisans du goût, eh bien, vous n'avez pas attendu le gouvernement et la grande distribution pour proposer votre panier. On a plein de beaux exemples à vous donner, auditeurs d'Europe 1. Et on va commencer, tiens Ophélie, avec une belle initiative, je pense à celle de mes voisins producteurs du côté de Lille.
Exactement, ça fait un an qu'ils distribuent chez les particuliers des paniers de légumes à 10 euros. Et c'est souvent 1 euro moins cher qu'en grande distribution. J'ai un autre exemple, c'est en janvier, donc avant tout le monde, Hugo Mock, qui est le gérant d'une épicerie à Biernay-les-Villages, en Mayenne, qui a lancé des paniers anti-inflation à 20 euros avec de la farine, du riz, de la compote, du jus de fruits, du beurre, des pâtes, des fruits et des légumes, du lait, du fromage et du jambon.
On a de beaux exemples autour du poisson qui sont complètement sidérants, où on peut faire de bonnes affaires à condition d'être curieux avec le poisson. On va en parler dans un instant. Mais juste avant, je voudrais savoir ce qu'en pense notre camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Vous le savez, il fait partie de la bande. Il nous éclaire le samedi sur le goût de l'époque. Et lui, tiens, l'ambassadeur des marchés partout en France, eh bien, il nous parle d'un boucher généreux qui lui a tapé dans l'œil, n'est-ce pas, tonton Jean-Luc ?
Bonjour, c'est peut-être l'heure de changer un peu ses habitudes. Je crois que l'histoire du panier ou du caddie et que l'on remplit anonymement est complètement dépassée. Vive la confiance, et je le dis tout le temps, qui va s'instaurer entre celui qui vend et celui qui achète. Alors le marché, c'est la plaque tournante de tout ça. Je vous donne l'exemple. Dernièrement, j'ai vu mon boucher. Il faisait des toutes petites paupiettes, grosses comme des clémentines. Et ces petites paupiettes, il les vendait à 1,50 €. Eh ben. Elle est suffisante en apport de viande dans un plat, un beau coulis de tomates, ah oui, un petit riz blanc à côté. Il y a de la qualité et il y a de l'astuce. Lui, le boucher, avait envie de faire un geste envers ses clients et vous, eh bien, vous passiez par là. Regardez les colliers d'agneau, par exemple. 3 francs 6 sous le collier d'agneau.
C'est vrai, oui.
Eh bien,
pas
c'est
cher.
un joli plat chaud pour la famille. Mon boucher, il vend aussi les parties avant du bœuf parce qu'il a envie de les vendre. Eh bien, ces parties avant, c'est le pot-au-feu. Eh bien, oui, on ira vers la macreuse, on ira vers ces morceaux qu'on a l'habitude de délaisser passé pour prendre toujours que la plus belle côte de bœuf ou la plus belle entrecôte, la bête, elle va pas non plus marcher que sur deux pattes sous prétexte que les deux pattes avant ne vont pas. Non, 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 il faut profiter des bonnes affaires et du clin d'œil. Voilà, tout le monde a son chemin à faire dans cette histoire.
Eh bien, nous sommes d'accord. Merci, tonton Jean-Luc Petit-Renaud. Tout simplement, le goût du bon sens. Soyez curieux à propos des morceaux de viande. Comme le dit Jean-Luc, n'allons pas toujours sur les mêmes morceaux. Et c'est la même chose du côté du poisson, Emmanuel Rubin. Et on a une belle initiative, je trouve, de la part d'un couple de poissonniers en Normandie. Je trouve génial ce qu'ils font. Racontez-nous.
Ouais. Nous sommes du côté de Meuven. Meuven, c'est dans le Calvados. Oui. La poissonnerie s'appelle le Sextant. C'est un jeune couple de poissonniers. Et eux, ils proposent un panier de poisson pour 3 repas. Et le panier coûte 10 euros.
3 repas à 10 euros.
Attention, avec le panier, quand on le pèse, c'est de 2 à 2,5 kg, ce qui ramène le poisson à 5 euros le kilo.
Et pourquoi ils arrivent à proposer ce panier à 10 euros avec du poisson, faut le dire, Emmanuel Rubin. Parce qu'ils vont vers des poissons méconnus et qu'on ne cuisine pas d'habitude.
Exactement.
Hein, le taco, le chinchard, le merlan.
Et là, ça renvoie en plus à un autre enjeu qui est l'enjeu environnemental, parce que justement, vous ne saturez pas les pêches, plus vous allez varier votre table poissonnière avec ce genre de poissons qui sont pas des poissons de peu, mais un peu moins connus, moins vous allez aller taper sur toujours les mêmes poissons, les bars, les loups, les thons. Et donc, c'est aussi une manière d'être très citoyen.
On vous mettra les références sur notre newsletter sur europe1.fr. C'est gratuit pour vous y abonner, bien entendu. Newsletter à table. Un bel exemple avec des maraîchers bio en Alsace aussi,
oui,
Ophélie.
La coccinelle à Gesch-Polsheim, c'est dans le Bas-Rhin. Ils proposent, eux, 1 kilo de légumes bio pour 1 euro.
Alors, amis auditeurs d'Europe 1, si vous avez vous aussi vent d'autres initiatives, vous les inscrivez sur le groupe Facebook Les Bons Vivants et on va les relayer ici parce que on a un conseil pour vous qui nous écoutez. Soyez infidèles. Soyez infidèles à la grande distribution et allez voir vos artisans, vos petits commerçants qui sont en train de faire de belles initiatives en ce moment et on le voit partout en France. Allez, c'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine sur Europe 1. On vous offre le Blender Power 5XL Connect de Magimix, s'il vous plaît. Votre nouveau partenaire santé et bien-être connecté en Bluetooth. Et on accueille notre premier auditeur, c'est François. Bonjour François.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où François ?
De Tours.
Ah, de Tours, là dites donc, capitale du Rion.
Capitale du Rion et capitale de l'Arablaisie et du
et
bon,
bons
du bon savoir-vivre.
Absolument, avec à l'université François Rabelais où on disserte autour de la gastronomie française. On
tout
écoute le bruit de cuisine, François.
Ah oui, c'est ça.
Alors, à quoi pensez-vous, François ?
Alors, c'est pas très simple, comme d'habitude, mais bon, moi, j'opte pour une belle tranche de pain grillé avec un bon beurre demi-sel qu'on tartine dessus.
Alors, moi, je demande une action en cuisine. Donc, vous me dites quoi comme action ?
Le fait de... cette action de tartiner.
Ah ! On a eu peur.
Eh ben, écoutez, c'est gagné, François. C'était une biscotte, mais c'est vrai qu'à l'oreille, c'est la même chose qu'une tartine de pain grillé parce qu'il y a la solidité, effectivement, de la densité de la mie qui est cuite en dessous. Vous avez bien fait d'insister, François, c'est gagné. On vous envoie le Power 5XL de Magimix, un très beau blender qui est connecté en plus et vous pourrez faire de très belles recettes avec. Merci, François, pour votre fidélité.
Génial. Et moi, merci à vous de votre émission. Je vous écoute depuis très, très longtemps et j'écoutais également Jean-Luc bien avant.
Ah, Jean-Luc Petit-Renaud, absolument, qui est notre aîné sur cette radio et c'est pour ça qu'on veut à tout prix qu'il soit avec nous encore à cette table sur Europe 1. Eh ben merci.
Donc je suis récompensé de ma fidélité à Europe 1.
Exactement.
Et à votre émission, Laurent, et continuez comme ça, je vous regarde également sur TF1.
Eh ben c'est gentil, vous reprenez quelque chose, c'est pour nous. Allez, c'est gagné. Merci François.
Merci.
Bonne journée sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Il grandit entre Fontenay-sous-Bois et Montreuil avec une grand-mère algérienne qui lui a donné le goût de la cuisine. Il quitte les bancs de l'école pour les arrière-cuisines du grand chef Alain Saint-Drins à la Madeleine avant de travailler au restaurant du drugstore aux côtés d'un autre grand chef, Éric Fréchon. Vainqueur de Top Chef en 2021, sa cuisine, elle est comme lui, solaire. C'est Mohamed Cheikh, notre invité. Bonjour Mohamed.
Bonjour Laurent. Merci pour la présentation.
Bah c'est vous ça, hein. J'ai rien inventé, hein. Comment ça va ?
Bah super.
On dit Mohamed Cheikh ou Mohamed Cher ? Parce que le KH se prononce, on dit Khaled quand c'est en arabe.
C'est exactement l'exemple que je prends en plus habituellement, donc c'est vrai que c'est Cheikh.
Ah, Mohamed Cheikh, notre invité. Eh ben voilà, on va parler la langue. Vous venez nous voir ce samedi matin au Studio Coluche à Europe 1. Qu'est-ce que vous faites en général à cette heure-ci sur les coups de midi moins le quart?
Eh ben alors ça dépend des jours. Je peux être en cuisine ou je peux aller faire des courses aussi auprès des producteurs, m'occuper parfois aussi de mes enfants.
Et oui, c'est un jeune papa.
Voilà, exactement.
Combien d'enfants?
Deux.
Deux enfants.
Un de 15 mois et un de 3 mois, donc je peux vous dire que c'est un peu le festival à la maison.
Et ça y est, il mange de tout déjà?
On lui fait goûter pas mal de choses et ça se passe plutôt bien.
Quel est votre goût de la semaine, Mohamed, alors?
Alors cette semaine, j'ai un peu honte parce que du coup, j'ai beaucoup travaillé, donc je me suis très mal nourri.
Donc je suis allé acheter un sandwich triangle, voilà. Non, quand même pas.
C'est presque ça, mais je dirais que mon goût de la semaine, c'est encore les sushis parce que je reviens du Japon. Et après, donc, j'ai dégusté des gros mollusques, je connais pas les noms, et c'est vrai qu'il y avait pas la traduction, donc, toujours un peu compliqué, mais, j'ai mangé des choses vraiment super sympas là-bas.
Alors, c'est vrai que vous avez le goût du voyage, hein, on le disait, vous venez nous voir d'ailleurs pour votre premier livre, Ma cuisine méditerranéenne, paru chez Solar. On retrouve de belles cuisines qui sentent bon le soleil. Tiens, quelques intitulés de recettes. Épaules d'agneau confites aux épices. Onglet de bœuf kefta sauce blanche. Une recette du livre qui vous représente parfaitement, vous diriez quoi?
Ah, il y en a quelques-unes du coup parce que c'est un mélange en fait entre quelques souvenirs de cuisine d'enfance, les premiers plats que j'ai sortis en tant que chef et aussi des plats du grand carton de restaurant éphémère Manzilli.
Donc au Jardin des Plantes, hein, après Top Chef, vous avez ouvert un restaurant éphémère, mais c'était incroyable. J'y suis allé plusieurs fois. Ça ne désemplissait pas cette histoire.
C'était vraiment dingue. Donc je remercie encore une fois tous les gens qui sont venus me voir. Et je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas réussi à venir manger chez nous.
Oui, parce que vous pouvez, hein. Parce que vous n'avez pas de restaurant aujourd'hui. C'est ça qui est dingue. C'est vous faites partie de ces chefs voyageurs qui ont des restaurants éphémères de temps en temps, qui font des voyages, des livres et qui rouvrent un restaurant éphémère, hein.
Actuellement, oui, on travaille sur des projets d'ouverture. En fait, pour l'instant, on s'amuse sur des projets éphémères qui me permettent de tester des concepts et de recevoir des gens dans des formats un peu différents, de faire des quatre mains aussi avec des chefs un peu partout. Et donc là, on travaille sur 2024 pour des ouvertures, en tout cas, sur Paris.
Alors, Mohamed, je vous présente Emmanuel Rubin, critique gastronomique au Figaro, que vous connaissez certainement à vos côtés. Et Emmanuel, vous le dites souvent, l'assiette est aussi le miroir de la société. Et puisque Mohamed est parmi nous ce samedi, vous évoquez aujourd'hui une génération émergente du côté des chefs et de la gastronomie, une génération issue de l'immigration maghrébine qu'on voit partout en cuisine.
Alors, ça va peut-être faire grincer quelques mâchoires, tant pis. Car il s'appelle Mohamed donc, Naoel, Youssef, Omar, et tous à leur manière incarnent une nouvelle vague, quelque part entre France et Maghreb. Alors je vais les citer. Youssef Gatli, tunisien d'origine, il découvre les saveurs françaises du côté des marchés de ses vacances. Il va rejoindre ensuite l'Institut Paul Bocuse, être formé par Alain Saint-Dérins. Il ouvre un premier bistrot chic, Plume, rive gauche à Paris, plutôt français, même carrément français, avant l'année dernière de lancer Dune, cette fois Paris, quartier du Sentier, où là il laisse exprimer sa fibre tunisienne, autant dire portée sur la mer. Naoel Deno, c'est une jeune fille, père d'un boucher, d'une mère au foyer d'origine algérienne.
Elle a fait Top Chef aussi.
Elle a d'abord découvert la cuisine grâce à Cyril Lignac. C'est comme ça qu'elle a eu le déclic. Ensuite, elle a effectivement été forgée dans les grandes maisons, elle l'emporte Top Chef en 2013, elle ouvre son restaurant Orchidée, c'est à Pontoise, elle décroche une étoile Michelin. Mon chouchou, Omar Diab, alors lui d'origine égyptienne, lui aussi formé au haut fourneau de la haute gastronomie française, sa première adresse parisienne est ouverte à l'automne dernier, restaurant éponyme du côté de la place des Victoires, lundi dernier, première étoile Michelin.
Et boum. Comment expliquer cette génération? C'est génération dorée ou génération spontanée, vous diriez?
Moi, je crois que la première chose, c'est qu'ils ont pu profiter. D'abord, on est dans la deuxième et troisième génération. Faut peut-être aussi parler des trains qui arrivent à l'heure dans la presse. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui
et de gens
issus de cette immigration
et de gens qui se réalisent, absolument.
La deuxième chose, c'est que je crois qu'à partir de la fin des années 90-2000, ils ont eu la chance d'avoir des chefs qui étaient nettement plus ouverts dans les grands restaurants. Beaucoup moins stéréotypés, peut-être désireux d'internationaliser eux-mêmes leur brigade et de s'ouvrir un peu à une jeune génération. Et enfin, c'est une génération qui est la génération des années 2000. Vous savez, ces années 2000 où il y a eu un peu cette gastronomie qui s'est décomplexée, déringardisée. C'était le fooding, c'est Top Chef.
C'est vrai.
Et soudain, le métier de chef, le métier de nourrir, était soudain féminin, un peu plus sexy, et certainement que des jeunes ont voulu y aller.
Alors avant de donner la parole à Mohamed, vous Emmanuel, le critique du Figaro, vous pensez que cette génération va aussi faire bouger les lignes de la cuisine nord-africaine par exemple?
J'en suis certain, elle en a même le devoir. Si j'observe ces dernières années, justement on l'a vu avec depuis 25 ans tous ces chefs japonais qui sont venus à Paris et qui ne sont pas repartis et qui dialoguent aujourd'hui entre leurs deux cultures, culture française, culture nippone, ça donne tout un tas d'adresses et pas simplement à Paris, à Lyon ou ailleurs, formidable. On a vu aussi la jeune garde espagnole, anglaise, nordique ces dernières années s'éveiller et bousculer son terroir. Il est temps que la cuisine du Maghreb, du Mashrek, la cuisine nordaf comme on dit, sorte un peu de sa belle tradition, de sa haute tradition, de ses grandes recettes, de ses grands gestes, du couscous tagine, pour justement un petit peu aller vers ce qu'on pourrait appeler une nouvelle cuisine nord-africaine. Et ce sont toujours les chefs et les grands chefs qui sont des locomotives, à eux de jouer.
Voilà, Emmanuel Rubin, vivant et habité comme toujours. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention, Mohamed, ce que vient de dire Emmanuel. Votre réaction alors ?
Bah, c'est beau, ça fait plaisir et je le remercie pour tous ces mots. Je félicite d'ailleurs Omar aussi parce que c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai collaboré, qui est une charmante personne et qui travaille très bien. Moi, ce que je dirais, c'est deux choses. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la cuisine française est inspirée du monde entier. Donc ça a aussi un sens logique. Deuxièmement, si je parle de moi, je suis d'origine franco-algérienne. Je vous apprends rien, l'Algérie était française jusqu'en 62. Donc si on parle d'immigration, mais finalement moi mes grands-parents ils sont venus avec un voyage assez naturel finalement. Donc je trouve que c'est assez normal et c'est depuis très longtemps. D'ailleurs le plat préféré des Français c'est le couscous. Cette cuisine elle est un peu en sommeil depuis un petit moment et parce que on a eu un petit peu honte de reconnaître un peu son origine ou sa personnalité ou son histoire. On s'est un peu caché derrière ça. Moi je sais que quand j'ai commencé, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec les plus beaux et les plus grands chefs français. Je disais toujours, ouais, je fais de la cuisine française, je fais de la cuisine française, je fais de la cuisine française. Et grâce à Top Chef, aujourd'hui, on va dire que je me suis assumé. Je suis français, avant tout, mais je suis aussi d'origine algérienne. Et ma cuisine, elle est inspirée de mes origines, de ma famille, de ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'ai pas honte, en fait, de l'incorporer dans mon savoir au quotidien.
Allez, on envoie le bar à la deux, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une tripe.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, 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 assaisonnement, hop, on enlève.
11h30, la table des bons vivants.
Allez,
Laurent Mariotte.
Nous revoilà, bon samedi midi avec nous à table. Bienvenue si vous arrivez sur Europe 1 et puis merci d'être là si vous êtes des nôtres depuis 11h. Mohamed Cher est notre invité avec son beau livre « Ma cuisine méditerranéenne » paru chez Solar. Mohamed, tiens, depuis Top Chef, vous êtes un chef, comme on dit, en résidence, sans restaurant fixe. On a connu le succès de Manzili au Jardin des Plantes. Après Top Chef, vous avez régalé les Parisiens et il fallait faire la queue, il fallait presque prendre un ticket des jours à l'avance pour venir goûter votre cuisine. Quels sont vos projets aujourd'hui du côté de la restauration ?
Alors au niveau de la restauration, aujourd'hui je m'inscris un petit peu comme un nomade, qui est aussi un petit peu ma signature culinaire, qui est une volonté par rapport au monde actuel, les périodes compliquées qu'on traverse et qu'on a traversées. Mais on travaille sur des ouvertures pour 2024. Donc moi je travaille avec le groupe Bertrand sur la restauration, avec Olivier Bertrand. On a 2-3 projets pour l'instant qui sont confidentiels. Et aussi, j'ai un petit projet avec le Paris Saint-Germain.
Ah, voilà. Ah oui.
Donc, je retourne maintenant.
Ah, je
comprends. Ils peuvent travailler à un restaurant parce que vu que la Ligue des Champions s'est rappelée pour cette année.
On vous a vu avec Mbappé sur Instagram il n'y a pas longtemps. Je comprends mieux maintenant pourquoi.
Voilà, c'est un charmant garçon. Voilà, malheureusement, c'est vrai qu'ils n'ont pas.
Il y a eu longtemps un restaurant qui s'appelait le 70 au Parc des Princes. 70, que c'est la date de création du club. Et il y avait un restaurant où on pouvait aller déjeuner, dîner, en regardant pas les matchs forcément.
Alors, en attendant, on retrouve vos recettes dans votre livre, je le disais, Ma cuisine méditerranéenne, paru chez Solar. Une cuisine nourrie de voyage, on en parlait avant Europe 1 Midi Week-end, mais c'est vrai que vous avez le goût du voyage dans vos veines, en plus de votre identité franco-algérienne.
Complètement. Il y a je sais pas si c'est un écrivain ou un philosophe, et on n'a pas le nom, peut-être que vous l'avez, qui dit « Le voyage, c'est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches ». Et je suis complètement d'accord avec ça, c'est un peu
beau,
ma philosophie.
Je suis pas du Laurent Mariotte.
Mais je me.
grand philosophe.
Oui, c'est heures, bien sûr.
Mais voilà, quand on voyage, on apprend sur les modes de vie, sur les cultures différentes, sur les techniques culinaires, sur les savoir-faire. C'est vachement enrichissant et en fait, on voit et on apprend et on retient énormément de choses.
Et vous le disiez tout à l'heure, vous étiez au Japon il y a quelques semaines. Vous avez fait des découvertes intéressantes au niveau du poisson, par exemple. Je sais que vous aimez beaucoup le poisson.
Bah, sur le poisson, sur la fermentation de la sauce soja, sur les qualités de riz, sur d'autres produits parce qu'ils font d'autres choses, hein, sur les teppanyaki, sur les cuissons au bichotan, sur les maturations, sur... Enfin, c'est très très fort et puis on en apprend partout et moi j'adore ça parce que quand on revient, ben on est un peu plus intelligent et cultivé qu'auparavant.
Eh ben, on va être plus intelligent et plus cultivé grâce au plat du jour que vous avez la gentillesse de faire pour nous ce midi sur Europe 1, Mohamed Cher. Une recette facile pour nos éditeurs ce week-end qu'on retrouve dans votre livre. Déjà, c'est facile puisqu'il n'y a pas trop de cuisson. On va faire un carpaccio.
Exactement. Hein, voilà. J'ai envie de provoquer le destin. On a la chance d'avoir de la pluie. On l'a attendu depuis longtemps.
Oui, il en fallait. Il faut recharger les nappes phréatiques.
Voilà. Mais il faut encore un peu froid. Donc, on a envie d'avoir un peu chaud là, ces derniers temps. Donc, avec un plat léger, simple et facile à faire à la maison qu'on a présenté. Donc, c'est une fusion de deux plats qu'on servait au Manzilli et qui sont dans mon livre. Donc, j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui.
Alors, carpaccio de Pajot à l'élixir de pomme, Mizuna à la Poutargue. Alors, rien que déjà, le titre est voyageur. On va le décrire. Il arrive en ce moment au sud de Coluche dans une belle assiette en grès.
Et Miss j'ai Blue préparé Blue, les couverts.
Ophéline Eman aiguise ses couteaux. Voilà, il y a de la générosité et de la couleur. Déjà, décrivez, tiens, monsieur le critique Emmanuel Rubin, ce plat.
Palette. Alors, carpaccio, vous l'imaginez, vous savez, très à plat, comme souvent. C'est un peu triste. Là, ce que j'aime bien, c'est déjà qu'il y a du volume.
Ouais.
Parce qu'on a le carpaccio qui vient caresser comme ça la jolie assiette, hein, ça doit être de la céramique. Et puis par-dessus, il y a une petite salade qui froufroute. Et puis ce jaune, ce orangé, cet ocre de la Poutargue, c'est à la fois une palette, mais une palette en volume, gourmande, en 3D. Ça change du carpaccio
raplapla
à l'horizontale. Là,
c'est ça. Il y a du volume, comme vous dites. Pourquoi le choix du Pajot, un poisson pareil? On parlait des poissons méconnus tout à l'heure parce qu'on cuisine toujours le cabillaud et le saumon, faut en sortir. Pourquoi le choix du Pajot?
Alors, deux choses, parce que c'est un poisson qu'on a pas mal en Méditerranée. C'est un poisson qui est méconnu et qui est super. Malheureusement, aujourd'hui, moi je me bats, je pense que je ne suis pas le seul. Dans les restaurants, aujourd'hui, les gens veulent manger que du saumon, du cabillaud, du bar.
C'est ça.
Alors que la mer regorge aussi de belles choses.
Et il est abordable en plus, le Pajot, par rapport à la dorade.
Il est abordable parce que du coup, il y en a et personne n'en veut. Et vous permettez, je suis un grand saucier, donc je vais me permettre de vous rajouter un peu de sauce.
Venez rajouter la sauce, absolument. Il faut qu'on parle aussi de ça, de ce que vous avez mis qui ressemble à une roquette, mais qu'on appelle le Mizuna. Hein. Racontez-nous ce qu'est le Mizuna, Mohamed.
Alors, la Mizuna, c'est une petite pousse de salade, ou on pourrait presque dire d'herbe, qui est quand même vachement utilisée aussi en Asie. Donc il y a un goût un petit peu piquant, mais je trouve un peu moins amer que la riquette. Personnellement, je déteste la riquette.
Ouais, donc, vous n'avez pas le côté poivré?
Non, j'aime pas trop. C'est un peu presque astringent. Et je trouve que sur cette pousse-là, on a des saveurs qui sont sympas. Elle marche très bien aussi à la cuisson. J'avais travaillé un peu avec Nobu Matuisa, le chef japonais. Il la faisait tomber, lui, comme des épinards. Et je trouvais ça fabuleux.
Alors, on va goûter parce que le Mizuna, ça se trouve facilement quand même, vous diriez, ou pas forcément. C'est un truc de maraîcher d'épicerie bio, ça. Hein.
Ouais, chez le maraîcher, vous le trouvez facilement, ou pour nous, c'est assez facile, mais c'est vrai qu'on...
Bon, on le remplace par quoi, alors? La riquette, la roquette?
Ou la pousse de moutarde.
Pousse de moutarde.
Pousse de moutarde, ouais, éventuellement. Donc, je vous invite à mélanger un peu tout ensemble.
Mohamed, un mot sur la sauce qui enrobe bien le Pajot avec ce Mizuna?
Alors là, on est sur deux textures différentes. Donc, on a une petite partie assez simple, donc avec du yaourt grec très citronné et assaisonné, qui est mélangé en fait avec une vinaigrette, donc à base de, on appelle ça de l'élixir de pomme. En fait, c'est un concentré de pomme vieilli en fût.
Oui, c'est un cousin du balsamique un peu.
Entre autres, hein, on va dire, voilà, c'est un peu ça. C'est bien vu. Et donc mélangé avec du jus de citron et de l'huile de sésame, donc avec des produits méditerranéens.
C'est vrai que là, on est dans le voyage total. Effectivement, il y a un petit côté asiatisant avec ce poisson cru aussi, hein, Emmanuel.
De l'Asie, la Méditerranée, plein la bouche, j'arrive plus à parler.
Qu'est-ce qu'on... Alors allez-y, finissez votre bouchée, Ophélie.
J'ai terminé, j'ai terminé.
L'assiette, elle est en train d'attacher la céramique.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Ophélie?
Eh ben, je me suis plantée, ça m'énerve. Parce
Pourquoi?
Que là, je le goûte et ça va pas. J'avais prévu un super vin qui était un peu en accord avec ma chronique d'après. Ça s'appelle Vinifera, c'est fait par Henri Marionnet. Henri Marionnet, c'est un très très bon vigneron qui vend en plus ses vins pas très chers dans la Loire, en Touraine. Et ça marche pas parce que jusqu'à présent, tant que j'étais sur le Pajot, c'était merveilleux. Et la Poutargue, qui a cette puissance, qui a cette amertume, ça renforce l'amertume du vin parce que le vin a aussi une petite finale amère. Tu l'as noté,
moi,
Emmanuel.
Moi, ça me gêne pas parce que quand je suis un fou de la mer.
C'est terrible, ça ajoute de l'amertume. C'est pas beau. C'est pas beau ensemble.
Ouais, sauf si on est un piqué, un amérophile comme moi, ça ne gêne pas, mais c'est vrai. Tu as raison.
L'amertume est clivante, oui.
Mais c'est comme ça, parfois on a des accords qui fonctionnent, parfois ça fonctionne pas. J'avais préparé un vin de Provence, un Minuti, pour ne rien vous cacher, blanc, parce qu'on oublie parfois que Minuti fait du blanc, et du beau blanc, et ça aurait été plus adapté. Voilà, l'histoire était moins belle, et c'était plus adapté.
En tout cas, je peux vous dire que le plat fait l'unanimité, le carpaccio de Pajot avec le Mizuna, cette belle sauce yaourt grec citronnée aussi, et puis cette belle liaison. Merci Mohamed Cher, restez avec nous, c'est pas fini pour vous. On revient dans un instant, mais juste avant, on joue avec le bruit de cuisine, puisqu'on vous offre le Blender Power 5XL Connect de Magimix Pardi, votre nouveau partenaire santé et bien-être. Il est garanti 30 ans et nous avons Brigitte au téléphone. Bonjour Brigitte.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde et Mohamed évidemment.
Bonjour. Vous nous appelez d'où Brigitte ?
J'appelle de Saint-Germain-les-Corbeilles dans l'Essonne.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis infirmière libérale.
Ah, quel beau métier ! Métier vital et essentiel pour reprendre un adjectif à la mode pendant le confinement. Alors on écoute le bruit de cuisine. Ah, alors il est dur celui-ci, c'est un nouveau bruit de cuisine, on l'écoute encore une deuxième fois.
Oui.
C'est du végétal, on dirait qu'on casse quelque chose. Mais quoi ? Telle est la question. Brigitte ?
Eh ben Brigitte, elle est très partagée, surtout que là vous me parlez de végétal, donc mon idée n'est pas celle-ci, mais je vais quand même rester sur mon idée et dire que c'est du café que l'on verse dans un moulin à moudre.
Du café. Ah non, on l'a eu ça déjà, le café dans un moulin à moudre.
Voilà.
Oh non, on a plusieurs bruits de cuisine en stock. Loïc Vimard, notre réalisateur qui cuisine énormément tous les week-ends pour faire de jolis bruits de cuisine, il en a plein sous le pied, je peux vous dire.
Donc, c'est dommage pour moi alors.
Mais vous savez quoi, vous n'avez pas tout perdu. On vous envoie ma cuisine méditerranéenne, le livre de Mohamed Cher qui est paru chez Solar et vous aurez de belles recettes.
Parfait. Écoutez, je l'admire beaucoup, je l'ai suivi sur Top Chef bien évidemment, comme je vous suis vous très régulièrement, Monsieur Mario.
Oh, vous êtes gentil.
Et je savais que Mohamed était très fort et j'avais un penchant pour lui. Je le félicite parce que vraiment
c'est
il était
gentil.
Très sympathique.
Eh bien, vous allez voir avec le livre, le penchant va se confirmer. Ça va être le coup de foudre.
Super.
Merci Brigitte.
Je suis pas trop déçue. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Passez une bonne journée.
Bonne journée Brigitte.
Bon week-end.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah, j'aime ça, une table vivante avec Ophélie Neyman, Emmanuel Rubin et notre invité Mohamed Cher qui est avec nous jusqu'à midi et demi. Reprenons le débat et la conversation autour de ce vin et l'accord avec ce plat parce que ça, je trouve ça très intéressant. Ophélie Neyman, Mohamed nous a fait un beau plat du jour, un carpaccio de Pajot avec du Mizuna qui est, on va dire, un cousin du chou. Ça ressemble entre le chou et la roquette. Et puis, il y a également de la belle poutargue et une belle sauce au yaourt grec avec du citron. Et vous avez choisi un vin, redites le vin que vous avez choisi.
Vinifera d'Henri Marionnet, donc du Sauvignon à partir de vignes non greffées.
Un vin avec une belle amertume et ça vous contrarie parce que vous dites que ça ne marche pas avec ce plat.
C'est ça, parce qu'en fait il a une magnifique richesse. Il n'est pas du tout variétal comme on connaît certains Sauvignons qui sentent vraiment le Sauvignon et ils se ressemblent tous et c'est horrible. Non, celui-ci il a une richesse, une ampleur avec effectivement un peu d'amertume en fin de bouche, ce qui le rend très gastronomique.
Oui, mais moi, j'aime bien. Alors moi je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi écoutez, je vais vous dire un truc. J'aime bien l'amertume et je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve qu'elle apporte de la neutralité, elle fait reset dans le palais, elle remet le palais à zéro et à niveau. Et on peut reprendre une bouchée et repartir à la conquête de la bouchée.
C'est vrai, mais là, je trouve qu'elle accentue la poutargue et elle ne met pas en valeur la finesse de la poutargue. C'est-à-dire que je trouve qu'elle alourdit la poutargue et que du coup, elle va alourdir tout le plat.
Nous ne sommes pas tous égaux devant l'amertume, Mohamed Cher, mais nous ne sommes pas tous égaux non plus devant la coriandre. Et vous adorez la coriandre, vous en mettez partout dans vos assiettes.
Tout à fait.
Non, je dis ça parce que je sais que certains auditeurs d'Europe 1 n'aiment pas la coriandre et c'est génétique aussi quand on n'aime pas la coriandre.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup
il y a un gène.
Ouais.
Le gène OR6A2. Et si vous êtes surexprimé de ce côté du gène chez vous, eh bien vous détesterez la coriandre parce qu'elle possède des aldéhydes. C'est un composant chimique qui est proche du goût du savon.
Mohamed, je vous redonne la parole. Croquette de morue à la coriandre, briques de bœuf haché, sardines au cumin, caviar d'aubergine fumée. C'est des recettes qu'on retrouve dans votre dernier livre. Vous l'aimez cette coriandre, hein ?
J'adore ça. Je pourrais presque la manger tel un bœuf. En fait, j'ai discuté la dernière fois avec le chef Yannick Aleno, que j'apprécie énormément. Et il m'expliquait qu'en gros, la cuisine algérienne, elle avait une histoire avec la cuisine chinoise. J'adore la cuisine asiatique, et j'adore la cuisine nord-africaine. Et c'est des éléments qu'on retrouve souvent dans les mêmes plats.
Oui.
Et la coriandre, finalement, c'est...
Très juste,
c'est vrai
très
que
c'est, juste.
On aime, je pense que c'est on aime ou on n'aime pas.
On l'appelle le persil chinois d'un côté, le persil arabe de l'autre.
Exactement ça, donc, c'est
ouais. Alors on le sait moi Mohamed, mais vous êtes aussi parrain d'une association pour la jeunesse et vous participez à ce titre à des missions humanitaires à Madagascar. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites là-bas parce que pareil, on retrouve un ingrédient essentiel de notre vie, c'est l'eau dans tout ça.
Absolument. Hein. En fait, donc c'est l'association qui s'appelle AROJ, donc Action pour la réussite et l'orientation des jeunes. Donc, c'est une association qui est fontenaisienne. Donc, c'est tout naturellement que je m'y suis positionné en tant que parrain. C'est une association qui va au moins une à deux ou trois fois, même par an, faire une opération, principalement en tout cas à date en Afrique. Donc, soit pour rénover des écoles, soit pour donner l'eau à ceux qui n'en ont pas. L'année dernière, on a été dans un village reculé d'Abidjan. Où ça m'a vraiment donné des souvenirs incroyables et des frissons parce que nous, typiquement, nous on parle de fermer le robinet alors que eux ils se posent la question de comment ils vont faire pour aller chercher de l'eau. Donc c'est là où on voit les différences des mondes et je pense que des fois aussi ça fait du bien en fait de se rappeler en fait le sens de la vie. Donc là on repart au mois d'avril, donc on a deux sponsors qui sont Hall et Yamaha et je pense que c'est important, c'est des partenaires plutôt de les citer. Donc on repart grâce à eux, on a la ville aussi, le département et plein d'autres personnes qui nous accompagnent.
Et vous repartez où là?
Donc à Madagascar.
D'accord, c'est
on
ça.
On va dans un village pareil reculé, Madagascar c'est connu, hein, ils sont très des grandes difficultés là-bas. Ils n'ont pas accès à l'eau et moi je trouve que c'est la chose la plus frustrante parce que l'eau c'est la base. On peut boire avec, on peut manger avec, on peut se laver, on peut
cuisiner,
enfin faire plein de choses. Et c'est aussi le transmetteur microbien le plus important, donc c'est quelque chose de vachement sensible.
Et vous savez, ce qu'on peut faire aussi, Mohamed, c'est qu'on peut changer l'eau en vin aussi. Et ça, on le sait faire ici, à cette table, avec Ophélie Neyman.
Quelle transition.
Ophélie voulait nous parler d'une étude qui a percé les origines de la vigne, ou plus précisément, sa domestication. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette découverte? Racontez-nous.
Bah, Laurent, cette étude, je pense, elle nous concerne tous. Parce qu'elle confirme que la vigne et le vin sont au carrefour des cultures du monde. Alors l'un de ses auteurs, Peter Nick, qui est biologiste à Karlsruhe en Allemagne, en a conclu que la domestication de la vigne a été l'une des forces motrices de la civilisation et qu'elle a été notamment l'un des premiers biens échangés au niveau mondial. Un autre chercheur, le chinois Wei Chen, qui a piloté l'étude, a déclaré, lui, que la vigne a probablement été la première culture fruitière domestiquée par les humains.
Bah, c'est vrai qu'on retrouve des traces écrites sur la vigne très ancienne. Je pense à la Bible, par exemple, avec le personnage de Noé.
Oui, dans le livre de la Genèse, la première chose que fait Noé, qui est un personnage qui existe dans les trois religions, chrétienne, judaïque et dans l'islam aussi. Donc la première chose que fait Noé après le déluge, quand il pose un pied sur la terre ferme, c'est de planter de la vigne sur le mont Ararat, qui est situé sur l'actuelle frontière de la Turquie et de l'Arménie. Et bien avant cela, dans l'épopée de Gilgamesh, qui est le plus vieux récit littéraire connu, qui a été rédigé il y a 4000 ans en Mésopotamie, il était déjà question de vin. Et puis, il y a des traces archéologiques, bien sûr, qui montrent qu'on écrasait déjà le raisin il y a 6 ou 8 000 ans. Mais ça restait très flou, tout ça.
Mésopotamie, et je te ferai une soupe. C'est donc une étude historique, alors, vous dites?
Non, au contraire, c'est pas du tout une étude historique. C'est une étude purement scientifique qui a déchiffré le génome de plus de 2400 variétés de vignes et qui a permis de remonter le fil du temps et de dépasser les récits. Elle est parue le 3 mars dans la revue Science. Elle est co-signée par des scientifiques de 17 pays. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette étude? Qu'on a commencé à domestiquer la vigne il y a 11 500 ans, au tout début de l'agriculture, donc avant même que les populations humaines ne se sédentarisent vraiment. Et ces premières cultures, elles apparaissent dans deux régions simultanément, qui sont éloignées d'un millier de kilomètres, le Caucase, donc Arménie, Azerbaïdjan actuel, et le Proche-Orient, entre la Jordanie et l'Irak.
C'était pour manger les raisins ou pour faire du vin?
Eh bien, quasiment les deux en même temps. L'alimentation d'abord, surtout dans le Proche-Orient, la production viticole dans le Caucase. Mais en fait, les cépages qui sont venus jusqu'à nous et qui sont utilisés aujourd'hui dans le vin viennent bien du croissant fertile. Ils sont arrivés à la faveur des échanges commerciaux, des migrations. Ils ont été croisés avec des espèces sauvages locales pour la vinification. Et donc, l'histoire du vin, in fine, c'est vraiment l'histoire de plusieurs civilisations qui se sont succédées.
Eh bien, merci beaucoup, Ophélie Neyman. C'est passionnant, c'est intéressant comme toujours avec vous et on vous lit, je le redis, dans le
et
journal
Le Monde. Et pas besoin de boire du vin
le monde.
Pour savoir ça.
Et avec plaisir, avec modération bien entendu. Mohamed, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Mohamed Cher, quel est le goût de votre enfance?
Alors, le goût de mon enfance, je dirais que c'est les sardines grillées. Donc, le son marche bien, du coup, avec.
À fond, ça frétille.
Les sardines grillées dans le balcon de ma grand-mère en Algérie. Donc, coincées entre deux grilles, tout simplement grillées au charbon et finies avec un petit filet de jus de citron.
Le premier plat qui vous a procuré une émotion ?
Alors, c'est le premier plat vraiment cuisiné, on va dire français, que j'ai mangé. C'est une aile de raie au beurre blanc avec des pommes vapeur. À l'époque, c'était mon premier stage au Petit Beaufinger qui n'existe plus à Vincennes. Oui.
Que trouve-t-on toujours dans votre frigo, Mohamed ?
Alors, on trouve toujours des compotes de pommes parce que
j'essaye,
c'est surtout j'essaye depuis quelques années de faire un régime. Donc, je veux me donner
depuis
bonne conscience.
Depuis quelques années, mais...
Que l'idée, le dernier plat que vous avez cuisiné pour votre famille ?
Alors, c'est un gigot d'agneau tel qu'on le fait dans les grands restaurants étoilés, confit avec son jus et aux herbes de Provence, donc avec des pommes de terre aux herbes, haricots verts, vraiment un plat typiquement français qu'on aime manger.
Et le mot de la fin est FAIM, Mohamed Cher ?
Le mot de la fin, faut se faire plaisir sans se ruiner. Hein, donc, faut apprendre à cuisiner les produits de saison, essayer d'utiliser donc des poissons qui sont un peu moins connus, que ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis voilà.
Abondant et abordable.
Exactement.
Merci Mohamed d'être venu à cette table.
Merci.
Je rappelle votre livre, Ma cuisine méditerranéenne, c'est paru chez Solar. Merci beaucoup. On retrouvera évidemment votre beau parcours en écoutant le podcast sur Europe 1. Merci Miss Glouglou Ophélie Neyman.
Merci Laurent.
Salut Emmanuel Rubin. Merci à toute ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef, avec Julien Amat et Marion Sauveur à la rédaction, ainsi que Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction. Loïc Vimard à la réalisation. Le podcast vous attend sur europe1.fr. On sera là samedi prochain avec Jacques Weber. Bon week-end sur Europe et à samedi.